L'abrégé de psychanalyse, Sigmund Freud, chapitre 5. L'interprétation du rêve comme explicitation. L'investigation d'états normaux et stables dans lesquels les frontières du moi, assurées contre le ça par des résistances, contre-investissement, n'ont pas bougé, et dans lesquels le surmoi n'est pas différencié du moi, parce que tous deux travaillent de concert. Une telle investigation ne nous apporterait que peu d'éclaircissement. La seule chose qui peut nous faire avancer, ce sont des états de conflit et de révolte, lorsque le contenu du « ça » inconscient a la perspective de pénétrer dans le « moi » et jusqu'à la conscience, et que le « moi » se met de nouveau en position de défense contre cette irruption. C'est seulement dans ces conditions que nous pouvons faire les observations qui confirment ou rectifient nos indications sur les deux partenaires. Or, le sommeil nocturne est l'un de ces états. Et c'est pourquoi l'activité psychique dans le sommeil, que nous percevons en tant que rêve, est aussi notre objet d'étude le plus favorable. Ainsi, nous évitons également le reproche souvent entendu de construire la vie d'âme normale sur des données pathologiques, car le rêve est une occurrence régulière dans la vie des êtres normaux, si tant est que ses caractères se différencient des productions de notre vie de veille. Le rêve, comme chacun sait, peut être confus, incompréhensible et même insensé. Ces indications peuvent contredire tout ce que nous savons de la réalité, et nous nous comportons comme des malades mentaux en attribuant, aussi longtemps que nous rêvons, une réalité objective au contenu du rêve. Nous nous engageons sur la voie de la compréhension, de l'interprétation du rêve, en faisant l'hypothèse que ce dont nous nous souvenons en tant que rêve après le réveil n'est pas le véritable processus du rêve, mais seulement une façade derrière laquelle celui-ci se cache. C'est de cette façon que nous différencions un contenu de rêve manifeste et les pensées de rêve latentes. Le processus par lequel le premier procède de ces dernières, nous l'appelons le travail de rêve. L'étude du travail de rêve nous enseigne, sur cet excellent exemple, comment du matériel inconscient, provenant du ça, originel et refoulé, s'impose au moi, devient préconscient, et du fait de la rébellion du moi, subit ces modifications que nous connaissons en tant que déformation du rêve. Il n'y a pas de caractère du rêve qui ne puisse trouver de cette manière son éclaircissement. Le mieux est de commencer par constater qu'il y a deux sortes de facteurs occasionnant la formation du rêve. Ou bien une motion pulsionnelle, d'ordinaire réprimée, un souhait inconscient, a trouvé pendant le sommeil la force de se faire valoir dans le moi. Ou bien une tendance qui est restée de la vie de veille, un cheminement de pensée préconscient avec toutes les motions de conflit qui s'y rattachent, a trouvé dans le sommeil, du fait d'un élément inconscient, un renforcement. Donc, des rêves provenant du ça ou du moi. Le mécanisme de la formation du rêve est dans les deux cas identique. La condition dynamique est également la même. Le moi fait la preuve de son apparition ultérieure à partir du ça, en ce qu'il suspend temporairement ses fonctions et autorise le retour à un état antérieur. Cela se passe correctement quand il rompt ses relations avec le monde extérieur et retire ses investissements des organes sensoriels. On peut dire à bon droit qu'avec la naissance est apparue une pulsion consistant à retourner à la vie intra-utérine qui a été abandonnée, une pulsion de sommeil. Le sommeil est cette sorte de retour dans le ventre maternel. Étant donné que le moi vigile domine la motilité, cette fonction est paralysée dans l'état de sommeil, et ainsi une bonne partie des inhibitions imposées au ça inconscient devient superflue. Le retrait ou l'abaissement de ces contre-investissements permet alors au ça un degré de liberté désormais inoffensif. Les preuves de la part que prend le ça inconscient à la formation du rêve sont abondantes et de nature contraignante. D'abord, la mémoire de rêve englobe bien plus de choses que la mémoire à l'état de veille. Le rêve apporte des souvenirs que le rêveur a oubliés, qui lui étaient inaccessibles à l'état de veille. Ensuite, le rêve fait un usage illimité des symboles langagiers dont le rêveur ne connaît pas la plupart du temps la signification. Mais nous pouvons confirmer leur sens par notre expérience. Ils sont vraisemblablement issus des phases antérieures du développement du langage. Enfin, la mémoire du rêve reproduit très fréquemment des impressions de l'enfance précoce du rêveur, dont nous pouvons résolument affirmer que non seulement elles avaient été oubliées, mais encore qu'elles étaient devenues inconscientes du fait du refoulement. C'est sur quoi est basée l'aide la plupart du temps indispensable du rêve lors de la reconstruction de la période précoce du rêveur que nous tentons dans le traitement psychanalytique. Et enfin, qui plus est, le rêve met au jour des contenus qui ne peuvent provenir ni de la maturité, ni de l'enfance oubliée du rêveur. Nous devons les considérer comme une partie de l'héritage archaïque que l'enfant, influencé par ce qu'ont vécu ses ancêtres, apporte avec lui au monde avant toute expérience propre. Nous trouvons ensuite les pendants à ce matériel phylogénétique dans les plus anciennes légendes de l'humanité et dans ceux de ses usages qui ont survécu. Le rêve devient ainsi une source pour la préhistoire humaine qu'on ne saurait négliger. Mais ce qui rend le rêve tellement inestimable pour notre compréhension des choses, c'est le fait que le matériel inconscient, pénétrant dans le moi, apporte avec lui ses modes de travail. Ce qui veut dire que les pensées préconscientes dans lesquelles il a trouvé son expression sont traitées au cours du travail de rêve comme si elles étaient des parts inconscientes du ça. Et dans l'autre cas, celui de la formation du rêve, les pensées préconscientes qui sont allées chercher le renforcement de la motion pulsionnelle inconsciente se trouvent rabaissées à l'état inconscient. C'est par cette seule voie que nous apprenons quelles sont les lois régissant le cours dans l'inconscient et en quoi elles se différencient des règles que nous connaissons dans la pensée vigile. Le travail de rêve est donc, pour l'essentiel, un cas d'élaboration inconsciente de processus de pensée préconscient. Recourons à une comparaison tirée de l'histoire. Les conquérants, envahisseurs, traitent le pays conquis non pas selon le droit qu'ils y trouvent, mais selon leurs propres lois. On ne peut pourtant méconnaître que le résultat du travail du rêve est un compromis. Dans la déformation imposée aux matériaux inconscients et dans les tentatives souvent fort insuffisantes pour donner à l'ensemble une forme encore acceptable pour le moi, l'élaboration secondaire, on peut reconnaître l'influence de l'organisation du moi qui n'est pas encore paralysée. C'est, dans notre comparaison, l'expression de la résistance persistante de ceux qui ont été assujettis. Les lois régissant le cours dans l'inconscient qui se font jour de cette manière sont assez singulières et suffisent à expliquer la plus grande partie de ce qui nous semble étrange à propos du rêve. Il y a là, avant tout, une tendance frappante à la condensation, un penchant à former de nouvelles unités à partir d'éléments que nous aurions sans aucun doute maintenus séparés dans la pensée vigile. En conséquence, un élément unique du rêve manifeste représente souvent un grand nombre de pensées de rêves latentes comme s'il était une allusion commune à toutes. Et d'une manière générale, l'ampleur du rêve manifeste est extraordinairement réduite en comparaison du riche matériau dont il est issu. Une autre particularité du travail de rêve, qui n'est pas tout à fait indépendante de la précédente, est la facilité du déplacement des intensités psychiques, des investissements, d'un élément à un autre, de sorte que souvent, dans le rêve manifeste, un élément qui était accessoire dans les pensées de rêve apparaît comme le plus net et partant le plus important. Et à l'inverse, des éléments essentiels des pensées de rêve sont seulement représentés par d'infimes allusions dans le rêve manifeste. Par ailleurs, des points communs, pour la plupart fort insignifiants, suffisent au travail de rêve pour remplacer un élément par un autre dans toutes les autres opérations. Il est facile de comprendre à quel point peuvent être rendus difficiles par ces mécanismes de la condensation et du déplacement, l'interprétation du rêve et la mise à découvert des relations entre rêve manifeste et pensée de rêve latente. Notre théorie tire de la mise en évidence de ces deux tendances à la condensation et au déplacement la conclusion que dans le « ça » inconscient, l'énergie se trouve dans un état de libre mobilité et que, s'agissant des quantités d'excitation, la possibilité de l'éconduction importe davantage au « ça » que toute autre chose, et elle utilise ces deux particularités pour caractériser le processus primaire attribué au « ça ». Par l'étude du travail de rêve, nous avons appris à connaître bien d'autres singularités encore, aussi remarquables qu'importantes des processus dans l'inconscient, dont seules quelques-unes sont mentionnées ici. Les règles déterminantes de la logique ne sont pas valables dans l'inconscient. On peut dire que c'est le royaume de l'illogisme. Des tendances au but opposé coexistent dans l'inconscient, sans qu'un besoin de les harmoniser se fasse sentir. Ou bien, elles n'ont absolument aucune influence réciproque, ou bien, dans le cas contraire, il n'intervient aucune décision, mais un compromis qui est insensé parce qu'il inclut des détails inconciliables entre eux. Dans le même ordre de choses, des opposés ne sont pas maintenus séparés, mais sont traités comme s'ils étaient identiques, de sorte que, dans le rêve manifeste, chaque élément peut aussi signifier son contraire. Quelques linguistes ont reconnu qu'il en était de même dans les langues les plus anciennes, et que des opposés, tels que fort faible, clair obscur, élevé profond, étaient à l'origine exprimés par la même racine, jusqu'à ce que deux modifications différentes du mot originaire aient séparé les deux significations. Des restes de ce double sens originel se sont apparemment maintenus dans une langue aussi hautement développée que le latin, dans l'usage qu'il fait de « altus », qui signifie « haut » et « profond »,« sacer », qui signifie « sacré » et « impie », etc. Au vu de la complication et de la multivocité des relations entre le rêve manifeste et le contenu latent qui se trouve derrière lui, on est bien sûr en droit de demander de quelle façon on en arrive même à faire dériver l'un de l'autre, et si l'on n'en est pas réduit alors à devoir deviner juste, soutenu éventuellement par la traduction des symboles apparaissant dans le rêve manifeste. Il nous est permis d'apporter cette information. Ce problème peut trouver sa solution dans la plupart des cas de façon satisfaisante, mais seulement à l'aide des associations que le rêveur livre lui-même à propos des éléments du contenu manifeste. Tout autre procédé est arbitraire et n'offre aucun résultat certain. Mais les associations du rêveur amènent au jour les maillons indispensables, intermédiaires, que nous insérons dans la lacune entre les deux, et à l'aide desquels nous pouvons rétablir le contenu latent du rêve, interpréter le rêve. On ne peut s'étonner si ce travail d'interprétation, opposé au travail de rêve, n'atteint pas toujours une pleine et entière certitude. Il nous reste encore à éclaircir du point de vue dynamique la raison pour laquelle le moi qui dort assume finalement la tâche du travail de rêve. Cet éclaircissement est heureusement facile à trouver. Tout rêve en cours de formation pose une revendication au moi, avec l'aide de l'inconscient, celle de la satisfaction d'une pulsion, s'il est issu du ça, celle de la résolution d'un conflit, de la levée d'un doute, de l'établissement d'un projet, s'il est issu d'un reste d'activité préconsciente dans la vie de veille. Le moi qui dort est réglé toutefois sur le souhait de maintenir le sommeil. Il ressent cette revendication comme une perturbation et il cherche à éliminer cette perturbation. Le moi y réussit par un acte d'une apparente docilité en opposant à cette revendication un accomplissement de souhait, anodin dans ces circonstances, et la supprime ainsi. Ce remplacement de la revendication par un accomplissement de souhait demeure la réalisation essentielle du travail de rêve. Il ne peut être pas superflu d'expliciter cela à partir de trois exemples simples. Un rêve de faim, un rêve de commodité et un rêve inspiré par le besoin sexuel. Chez le rêveur, un besoin de nourriture se signale pendant le sommeil. Il rêve d'un magnifique repas et continue de dormir. Il avait bien sûr le choix de se réveiller pour manger ou de poursuivre le sommeil. Il s'est décidé pour la dernière solution et a satisfait la faim par le rêve. Du moins pour un temps, car si la faim persiste, il devra quand même se réveiller. L'autre cas, le rêveur doit se réveiller pour être à une certaine heure à la clinique. Mais il continue de dormir et rêve qu'il se trouve déjà à la clinique, mais en tant que patient qui n'a pas à quitter son lit. Ou alors, pendant la nuit, se fait sentir la désirance de jouir d'un objet sexuel interdit, la femme d'un ami. Il rêve d'un commerce sexuel, non pas, il est vrai, avec cette personne, mais avec une autre qui porte le même nom, bien qu'elle lui soit indifférente. Ou bien, sa rébellion se manifestera dans le fait que la femme aimée dans le rêve restera absolument anonyme. Naturellement, tous les cas ne se présentent pas de façon aussi simple, en particulier dans les rêves qui sont issus de restes du jour non liquidé et qui n'ont fait qu'aller chercher un renforcement inconscient dans l'état de sommeil. Il n'est pas toujours facile de mettre à découvert la force de pulsion inconsciente et de mettre en évidence l'accomplissement de souhait de cette dernière. Mais on peut supposer qu'elle existe toujours. La thèse selon laquelle le rêve est un accomplissement de souhait ne manquera pas de se heurter à de l'incrédulité si l'on se souvient que beaucoup de rêves ont un contenu directement pénible ou conduisent même à se réveiller en proie à l'angoisse, sans même compter les rêves si fréquents qui n'ont pas une tonalité de sentiment précise. Mais l'objection du rêve d'angoisse ne tient pas face à l'analyse. Il ne faut pas oublier que le rêve est dans tous les cas le résultat d'un conflit, une sorte de formation de compromis. Ce qui est une satisfaction pour le ça inconscient peut, pour cette raison justement, être pour le moi un motif d'angoisse. Selon la façon dont se passe le travail de rêve, c'est une fois l'inconscient qui s'est le mieux imposé, l'autre fois le moi qui s'est le plus énergiquement défendu. Les rêves d'angoisse sont pour la plupart ceux dont le contenu a connu la moindre déformation. Si la revendication de l'inconscient devient trop grande, de sorte que le moi qui dort n'est pas en mesure de s'en défendre par les moyens disponibles, il abandonne alors le souhait de dormir et retourne à la vie de veille. On tient compte de toutes les expériences en disant que le rêve est à chaque fois une tentative pour éliminer la perturbation du sommeil par l'accomplissement de souhaits, et qu'il est donc le protecteur du sommeil. Cette tentative peut réussir plus ou moins parfaitement. Elle peut échouer, et alors le dormeur s'éveille, réveillé en apparence par ce même rêve. Et le brave veilleur de nuit qui doit protéger le sommeil de la bourgade n'a lui non plus rien d'autre à faire dans certaines circonstances que de sonner l'alarme et de réveiller les citoyens qui dorment. En conclusion de ces discussions, nous ajouterons la communication qui justifiera que nous nous soyons longuement attardés sur ce problème de l'interprétation du rêve. Il est apparu que les mécanismes inconscients que nous avons reconnus par l'étude du travail de rêve et qui nous ont expliqué la formation du rêve, que ces mêmes mécanismes nous aident aussi à comprendre ces énigmatiques formations de symptômes par lesquels les névroses et les psychoses mobilisent notre intérêt. Une telle concordance ne peut qu'éveiller chez nous de grands espoirs.